Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi. Anne Contenaire.
Dernière partie de RFI Midi sur le continent américain où la politique migratoire de Donald Trump, les expulsions en très grand nombre, continuent d'occuper les esprits. Aux États-Unis et dans les pays voisins. Reportage à suivre en Colombie et au Mexique. Nous irons aussi en Haïti où les gangs ont attaqué la commune de Keskov à l'est de la capitale. Des morts, des blessés par balles, des maisons incendiées. Les autorités ont décrété un couvre-feu nocturne. Nous en parlerons avec notre confrère de l'agence haïtienne Alter Press. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, les recherches se poursuivent 2 jours après l'accident d'un avion sur l'île de la Dominique, près de la Martinique.
Les secours vont repartir à la recherche des 4 occupants de l'appareil car l'épave de l'avion a été retrouvée, mais elle était vide.
À tout à l'heure. Mais d'abord, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Victor Misistrano.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On va parler d'abord de la démission du Premier ministre de la Serbie.
Miloš Vučević avait pris la tête du gouvernement en mai dernier. Un gouvernement qui, depuis 3 mois, fait face à un grand mouvement de contestation à la suite de l'effondrement du auvent de la gare de Novi Sad le 1er novembre. Les manifestants attribuent la catastrophe qui a fait 15 morts à la corruption et à l'incompétence du pouvoir en place.
Miloš Vučević, ancien maire de Novi Sad, c'est sous son mandat qu'avaient commencé les travaux de rénovation de la gare.
Et hier soir, dans cette ville, une jeune femme a été blessée dans un affrontement entre étudiants et militants du parti nationaliste au pouvoir. Un incident qui a donc poussé le Premier ministre à prendre sa décision.
Après l'incident d'hier soir à Novi Sad, ma décision irrévocable est de démissionner de mon poste de Premier ministre de la République de Serbie. J'ai eu une longue conversation ce matin avec le président serbe. Nous avons parlé de tout et il a accepté ma démission, il a accepté mes arguments. Je pense qu'avec cela, nous montrons la responsabilité de ceux qui ont été élus pour être responsables afin que cela ne déborde pas dans la rue et que cela ne provoque pas de disputes entre les citoyens, de nouvelles divisions dans la société, mais que les politiciens prennent leurs responsabilités et qu'ils montrent ainsi qu'ils sont prêts à calmer les tensions. Le président de la Serbie et moi-même, nous sommes entretenus au téléphone avec le maire de Novi Sad. Il démissionnera également aujourd'hui de son poste de maire de Novi Sad pour montrer une partie de sa responsabilité. Et avec cela, nous aurons répondu aux demandes les plus politiques des manifestants, les plus radicaux.
Vous venez d'entendre Miloš Vučević, le premier ministre serbe démissionnaire.
La situation toujours préoccupante en République démocratique du Congo.
Après l'entrée d'engoma de combattants du M23 et de soldats rwandais, à Kinshasa, des rassemblements populaires de protestation ont dégénéré. Les manifestants se sont concentrés devant plusieurs ambassades, notamment celles des États-Unis, de la France ou de la Belgique, qui ont été attaquées. Certaines pillées sur place à Goma. D'intenses échanges de tirs ont été entendus ce matin dans la ville. Les hôpitaux sont débordés. Un millier de réfugiés ont traversé la frontière vers Gisenyi au Rwanda.
Quelques jours après son entrée en fonction, l'administration Trump continue d'imprimer sa marque à Washington.
Ah oui, avec notamment un certain nombre de décrets. Par exemple, ce texte qui vise à bannir les personnes transgenres de l'armée. Le président l'a annoncé la nuit dernière devant des élus. Et puis Donald Trump fait le ménage au sein du département de la justice dans sa ligne de mire des enquêteurs ayant travaillé avec le procureur spécial Jack Smith sur le rôle de Donald Trump dans la tentative de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Ces enquêteurs, Guillaume Nodin, sont tout simplement virés.
Donald Trump n'a jamais fait mystère de sa volonté de reprendre en main le ministère dont il estime qu'il l'a poursuivi et harcelé entre ses 2 mandats. Cela commence manifestement avant même la confirmation de l'ancienne procureure de Floride, Pam Bondi, au poste de ministre. On ne connaît pas les noms des procureurs priés de faire leur bagage, ni même leur nombre. Tout juste sait-on qu'ils sont plus d'une douzaine. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir travaillé sous les ordres de Jack Smith, procureur indépendant nommé par l'ancien ministre démocrate Merrick Garland, dans ses enquêtes concernant le nouveau président. Le porte-parole qui s'exprime au nom du ministre intérimaire ne le cache d'ailleurs pas. Ils ont joué un rôle significatif dans les poursuites contre Donald Trump et il ne leur fait pas confiance pour mettre en place son programme. Sauf qu'en principe, ce sont des employés qui sont protégés par leur statut de fonctionnaire et qui ne rentrent pas dans la liste des postes politiques changeant avec le président. Ils pourraient donc contester devant les tribunaux leur renvoi. Quant à Jack Smith, il a pris les devants en démissionnant avant l'arrivée de la nouvelle équipe, mais il n'est pas à l'abri de poursuites de son ancien employeur. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Donald Trump veut s'inspirer du dôme de fer israélien, ce bouclier antimissile construit après la guerre du Liban en 2006. Le président américain a ordonné la nuit dernière la construction d'un bouclier de ce type pour protéger les États-Unis. Au sujet du Proche-Orient, il a par ailleurs dit souhaiter que les habitants de Gaza soient déplacés vers l'Égypte et la Jordanie. Réponse du Qatar. Aujourd'hui, le ministre qatarien des Affaires étrangères a réitéré sa position favorable à une solution à deux États. La bande de Gaza est la patrie des Palestiniens, assure son homologue iranien, l'Iran qui durcit sa position vis-à-vis des États-Unis sur cette question régionale en rejetant tout transfert donc des Gazaouis, mais aussi sur le dossier du nucléaire, alors que le président Trump a affirmé que l'Iran devait accepter un contrôle beaucoup plus poussé de son programme. À Téhéran, les précisions de Siavosh Ghazi.
Dans un entretien à la chaîne britannique Sky News, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que l'Iran était prêt à entendre les propositions américaines sur le dossier nucléaire, mais que les États-Unis devaient faire des concessions importantes pour aboutir à un accord. Déjà, le vice-ministre des Affaires étrangères avait déclaré hier qu'un accord sur le dossier nucléaire avec Washington sera difficile à atteindre. Le président Trump avait en effet affirmé que l'Iran devait faire des concessions importantes pour permettre un nouvel accord sur le dossier nucléaire. Les Occidentaux accusent Téhéran d'avoir accéléré son programme nucléaire, contrairement à l'accord de 2015 avec les grandes puissances. Sur le plan régional, le chef de la diplomatie iranienne a également pris le contre-pied du président Trump qui a souhaité le transfert des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie.
Les Palestiniens ne peuvent être expulsés, mais j'ai une autre proposition. Essayez d'expulser les Israéliens. Envoyez-les au Groenland, comme ça vous ferez d'une pierre deux coups.
Alors que la situation économique du pays ne cesse de se dégrader avec une hausse presque quotidienne des prix, les responsables iraniens semblent vouloir croiser le fer avec le président Trump et son administration qui veulent accentuer la pression contre Téhéran. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
3 ans de prison, c'est ce que risquera désormais toute personne jugée coupable de désinformation en ligne au Pakistan. Le Parlement vient de voter une nouvelle loi. Colère des journalistes, certains reporters accrédités ont quitté le Sénat. Cette mesure de durcissement vise, selon eux, à faire taire les opposants.
Et puis c'est le musée le plus visité du monde, le Louvre à Paris, menacé de délabrement.
La direction du musée tire la sonnette d'alarme, il y a urgence selon elle à faire des travaux. Emmanuel Macron se rend sur place aujourd'hui. Raphaël Delvolvé, le président français, doit présenter des annonces mais aussi s'afficher en garant de l'indépendance culturelle française.
L'Élysée le rappelle, le président ne gouverne plus mais la culture reste son domaine réservé. Cela relève de l'indépendance du pays dont il est constitutionnellement le garant. Rien d'anormal donc que ce soit lui qui annonce les travaux, leur durée, leur ampleur et les contraintes qu'ils impliqueront. L'entourage du président promet toutefois un discours en phase avec la réalité politique du moment. Face à la situation budgétaire délicate, des arbitrages étaient nécessaires et ont été faits en amont et en lien avec le gouvernement. Le montant dévoilé tout à l'heure devrait comprendre plusieurs centaines de millions d'euros pour pallier les nombreuses avaries déplorées par la direction du musée, notamment face à l'afflux de quelques 8 millions de visiteurs chaque année. Un peu comme pour Notre-Dame de Paris, le président Macron, affaibli politiquement, a donc un moyen d'exercer les derniers pouvoirs qu'il lui reste. Lui qui, de surcroît, a toujours eu pour ambition de démocratiser la culture. Son destin présidentiel est par ailleurs lié au Louvre. Il y avait prononcé son discours de victoire lors de son élection en 2017. Il y reçoit également régulièrement à dîner des chefs d'État, comme lors des derniers Jeux Olympiques de Paris.
Les explications de Raphaël Delvolvé pour terminer ce journal, Anne Kantner.
Merci Victor Missistrano. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes sur RFI. Et pour l'heure, RFI Midi se poursuit. Dernière partie sur le continent américain.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
La crise diplomatique n'aura duré que quelques heures dimanche entre les États-Unis et la Colombie, mais ses effets se font encore sentir. Je vous rappelle les moments clés. Refus de Gustavo Petro d'accueillir les avions militaires américains censés reconduire des migrants expulsés. Colère de Donald Trump, menace de droits de douane exorbitants, bras de fer. Et en fin de compte, capitulation du président colombien. Depuis, les réactions sont très nombreuses en Colombie, Marie-Ève de Teuf.
La crise a duré moins de 24 heures. Elle a enflammé le débat politique. Pour les uns, Gustavo Petro, en confrontant Donald Trump sans réfléchir sur le réseau X, a mis le pays en danger. La droite n'est pas la seule à le penser. César Paez, professeur universitaire.
Si on considère la personnalité des protagonistes, cette crise a eu des allures d'opérette latino-américaine. Mais si on prend en compte les conséquences qu'elle aurait pu avoir pour la Colombie, on est plus près de la tragédie.
Les détracteurs de Petro lui reprochent d'avoir en plus humilié le pays. Mais le coup de sang du chef de l'État a aussi ses défenseurs en Colombie et dans toute l'Amérique latine. Sara Suarez, institutrice à Bogota.
Je trouve que la position de Petro face à Trump, en ces temps où l'extrême droite est en progrès partout, a une valeur symbolique forte. Immédiatement, sur le réseau X, les gens ont commencé à parler d'intégration latino-américaine ou de rapprochement avec d'autres pays. Moi, je trouve qu'elle a eu un impact immédiat dans le débat.
La Colombie ne peut pas se permettre une guerre commerciale avec les États-Unis. Tout le monde en convient, mais Sarah regrette que Petro ait cédé, je cite, trop rapidement. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
L'opération anti-migrants lancée par Donald Trump aux États-Unis, et ce, dès le début de son mandat, avec un chiffre annoncé hier, 1179 arrestations. Pour cette seule journée donc de lundi, Vincent Souriau.
Oui, c'est le chiffre journalier le plus élevé depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et c'est 3 fois plus que la moyenne quotidienne relevée l'an dernier sous Joe Biden. Plus de 3500 interpellations en l'espace d'une semaine. Le bras armé de cette opération, c'est l'agence ICE, Immigration and Customs Enforcement, sorte de police aux frontières créée au début des années 2000 qui se concentre sur l'immigration illégale. Mais CNN signale que plusieurs organes fédéraux liés au ministère de la Justice viennent d'être mobilisés par l'administration Trump pour lui venir en aide. Le FBI, la DEA, l'agence antidrogue, mais aussi le bureau de contrôle des armes qui dispose lui aussi de forces d'intervention pour tout ça, pour un coup de filet massif sur tout le territoire hier, en particulier à Chicago, mais aussi au Texas. Plus de 80 personnes détenues hier. Mais comme le rapporte le Dallas Morning News, la presse locale au Texas, on en sait très peu à ce stade sur le profil des suspects. Le porte-parole local de l'agence ICE se contente d'évoquer des degrés variés de criminalité.
De l'autre côté de la frontière texane au Mexique, on s'organise pour accueillir les expulsés, plus de 4000 personnes en une semaine. Mais les autorités assurent être préparées, Marine Le Bègue.
4094 personnes en une semaine. Le chiffre peut être impressionnant, mais il est loin d'être surprenant pour le Mexique. Le pays est habitué depuis longtemps à recevoir des personnes expulsées des États-Unis, a rappelé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.
C'est un numéro que... En otras ocasiones ha tenido nuestro país.
C'est un chiffre que notre pays a déjà vu passer. Il y a donc des mécanismes de coordination qui existent depuis longtemps. Cette fois-ci, nous nous sommes préparés en installant des centres d'attention à la frontière nord.
Ces immenses tentes blanches, érigées depuis la semaine dernière dans les différentes villes qui bordent la frontière, devraient accueillir jusqu'à 2500 personnes, uniquement d'origine mexicaine.
Ce sont des centres d'attention où nous recevons nos compatriotes mexicains et mexicaines déportés par les États-Unis. Nous les recevons via le programme Mexico t'embrasse.
Ce programme, Claudia Sheinbaum le présente en opposition à celui que l'administration Trump veut ressusciter de son premier mandat, rester au Mexique. Celui-ci est au cœur des négociations entre les deux pays, car s'il est remis en place, les migrants de toute nationalité devront attendre au Mexique le verdict de leur demande d'asile aux États-Unis. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
On va parler maintenant d'un autre grand projet du président américain, le Dodge. Voici ce que Donald Trump en disait la semaine dernière au soir de son investiture.
The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency.
Le rêve américain sera bientôt de retour, prospère pour restaurer la compétence et l'efficacité du gouvernement fédéral. Mon administration mettra en place un tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Voilà ce que disait Donald Trump. Alors, ça n'est pas un ministère à proprement parler, même si son nom pourrait le laisser penser. C'est un comité créé de toutes pièces, avec un mot d'ordre répété comme un mantra par Donald Trump et par Elon Musk qui en prend la tête, couper, tailler dans les dépenses publiques et les aides fédérales. Anne Verdaguer, au-delà de ce message qu'on a beaucoup entendu, qu'est-ce qu'on sait exactement de ce comité ?
Bah écoutez, c'est un peu un ovni, hein, car c'est, vous l'avez dit, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un département d'État, ni une agence fédérale, le Dodge, qui au passage porte le nom de la crypto-monnaie dont Elon Musk a fait flamber la cotation boursière. Le Dodge donc a été créé ex nihilo, ou presque, car il est né sur les cendres du service américain chargé du numérique pour, en résumé, démanteler l'État fédéral américain et faire des économies. À vrai dire, on sait très peu de choses des objectifs du patron de Tesla nommé à sa tête. Elon Musk a déclaré vouloir faire des coupes à hauteur de 2000 milliards de dollars dans le budget fédéral avant de revenir sur cette déclaration parlant de 1000 milliards de dollars d'économies. Cela représente tout de même 15% des dépenses de l'État américain. Où va-t-il les trouver ? Il a menacé de tailler dans les effectifs de l'administration, bien sûr, et d'aller jusqu'à se débarrasser carrément de certaines agences fédérales. En a-t-il seulement les moyens ? Pas vraiment, car toute coupe budgétaire doit passer par un vote du Congrès. Et même si les Républicains en sont à la tête des deux chambres, certains pourraient grincer des dents sur certaines coupes. Pour le moment, la création de ce comité est donc très nébuleux. Pour Julien Toureille, chercheur à l'Observatoire des États-Unis à la chaire Raoul Dandurand de Montréal, le Dodge pourrait cacher une toute autre ambition de la part du président américain.
Probablement, c'est une façon donc de donner un titre peut-être un petit peu plus officiel à Elon Musk, d'asseoir aussi son influence dans la galaxie des conseillers de Donald Trump, mais ça soulève énormément de questions en termes de conflit d'intérêts, bien que de ce qu'on comprend et de ce qu'on voit avec Donald Trump, la notion de conflit d'intérêts n'a pas l'air d'être quelque chose qui l'inquiète particulièrement.
De quel conflit d'intérêts parle-t-on ?
Bah écoutez, c'est tout le problème hein, d'avoir permis aux plus grands entrepreneurs et à l'homme le plus riche au monde de travailler pour la Maison Blanche sans avoir abandonné ses casquettes de chef d'entreprise. Pour seul exemple, en 2023, le patron de SpaceX a noué près d'une centaine de contrats différents avec 17 agences fédérales pour un montant total de 3 milliards de dollars, a calculé le New York Times, et notamment avec la NASA, qui pourrait être tentée de favoriser le milliardaire et son programme spatial si celui-ci menaçait de couper les subventions de l'agence américaine. On imagine en tout cas les collusions que cela pourrait provoquer dans bien des domaines, y compris dans celui des voitures électriques, car sa firme Tesla bénéficie de nombreuses aides publiques. Alors, quelles seraient les administrations qui risquent le plus de passer sous la moulinette de Dodge ? Pour Julien Toureille, l'aide sociale serait notamment dans le viseur de l'administration Trump, même si celui-ci a promis qu'il n'y toucherait pas.
Par exemple, l'aide alimentaire avec les fameux coupons alimentaires, mais aussi, pourquoi pas, des pans de Obamacare, des pans de Medicare, Medicaid, pourraient être éventuellement touchés. Et en matière de bureaucratie fédérale en tant que telle, il y a par exemple le département de l'éducation, le ministère de l'éducation, qui est dans la ligne de mire du Doge et bon, des républicains et de Trump en particulier, parce que d'une part, on considère que l'éducation relève d'une compétence des États et que donc le fédéral n'aurait pas à s'en mêler. Et d'autre part, mais que ce département de l'éducation est un peu un fief de progressistes, de woke.
Voilà, et le Dodge qui est d'ailleurs déjà poursuivi par plusieurs organisations, dont le principal syndicat de fonctionnaires américains, pour manque de transparence. L'organisation réclame des garde-fous pour que cette commission ne promeuve pas des intérêts privés et n'influence secrètement pas des responsables fédéraux.
Dossier signé Anne Verdaguer.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité en Haïti, nous sommes en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Votre site affiche en une ces nouvelles violences, les gangs étendent encore leur emprise puisque des hommes lourdement armés ont attaqué hier matin la localité de Keskov à l'est de la capitale.
Oui, un calme précaire est revenu à Keskov où des habitants ont été tués par balles, beaucoup de maisons incendiées par les gangs qui ont attaqué la commune montagneuse à l'est de Port-au-Prince. Les autorités du conseil exécutif intérimaire de Keskov ne fournissent pas de précision sur le bilan de cette attaque qui a causé la panique et la peur dans cette commune surplombant la capitale. Des tirs nourris d'armes ont fusé à Seguin, Furcy, Godet, Bello, Obléon, de paisibles communautés rurales, eh bien, les activités régulières ont été paralysées, incluant les écoles et le commerce de produits agricoles.
Et face à ces violences, des renforts policiers ont rapidement été envoyés.
On a vu des unités de la police, en effet, venues en renfort rapidement aux policiers sur place. Ils ont été accompagnés par la population et les autorités locales. Un nombre indéterminé parmi les envahisseurs armés ont été tués, mais seulement une arme à feu de gros calibre ainsi qu'une radiocommunication ont été saisies. La police n'a pas parlé d'arrestation. Plusieurs hauts gradés de la police ainsi que le commandant kényan Godfrey Otunge de la mission multinationale d'appui à la sécurité ont été vus sur place.
Et puis vous nous l'avez dit rapidement, Godson, évidemment ces affrontements, ces violences, elles ont des conséquences pour les habitants.
Oui, bien sûr. Un couvre-feu est instauré sur l'ensemble.
Godson Pierre, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous? Bon, apparemment la ligne a coupé. Godson, vous êtes de retour, me dit-on.
Oui, oui. Alors donc,
vous nous parliez de ce couvre-feu
qui est instauré de 10h du soir à 5h du matin. Seuls des véhicules des autorités policières, judiciaires, municipales et les ambulances sont autorisés à circuler. Des contrôles d'identité sont effectués par les forces de l'ordre. Toutes les activités culturelles et récréatives en plein air qui réunissent une forte concentration de personnes sont suspendues à Kinskoff, toujours sous la menace d'autres attaques de bandes armées.
Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouve sur cette antenne mardi prochain et d'ici là, on peut vous lire sur le site alterpress.org. Haïti et la crise sécuritaire, on continue d'en parler avec vous, Vincent Souriau. Parmi les sujets abordés lors d'un coup de fil hier entre Marco Rubio, le nouveau patron de la diplomatie américaine, et le ministre dominicain des Affaires étrangères.
Il n'y a pas de compte-rendu détaillé de cette conversation, mais on sait que Marco Rubio, pour sa première tournée à l'étranger, va faire étape en République dominicaine, a priori le 5 février. Son déplacement englobe plusieurs pays d'Amérique latine, Panama, Guatemala, Salvador, Costa Rica, où il devrait mettre en avant les questions migratoires, encore une fois. L'avenue de Rubio à Saint-Domingue, en tout cas, a déjà été dénoncée par des organisations de gauche et d'extrême-gauche, nous apprend Prensa Latina, organisation qui s'inquiète, je cite, d'une soumission du gouvernement dominicain à la politique américaine. Elles sont convaincues que Marco Rubio va faire pression sur le président dominicain Luis Abinader afin qu'il coupe ses relations avec la Chine et qu'il s'engage en faveur de Taïwan.
Quant à la mission multilatérale d'appui à la sécurité, la MMAS, eh bien, elle pourrait bénéficier du soutien de Donald Trump.
C'est à prendre avec beaucoup de précautions. On connaît l'imprévisibilité du président américain qui l'a répété depuis son investiture. Il n'est pas question que les États-Unis s'engagent dans les conflits qui concernent d'autres pays. Mais s'agissant de cette MMAS, il y aurait un espoir, d'après le président du Kenya, William Ruto, dans une allocation hier devant des communautés religieuses de Nairobi au Kenya. Il est venu y dire que Donald Trump soutiendrait cette mission kenyane en Haïti afin que les hommes, les femmes et les enfants haïtiens puissent jouir de la paix et de la stabilité dans leur pays. On verra si tout ça se concrétise.
En attendant, on est très très loin d'une vie normale. Toujours pas de trafic aérien au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Port-au-Prince.
Dernière note la semaine dernière, toujours pas de liaison commerciale avec les États-Unis. La FAA, l'autorité fédérale de l'aviation américaine, n'a pas levé son interdiction. Aucune compagnie américaine n'est autorisée à se poser à l'aéroport Toussaint Louverture. Ça remonte au mois de novembre, hein, lorsqu'un appareil de la compagnie Spirit Airlines a été touché par des tirs d'armes automatiques, plusieurs impacts de balles sur le fuselage. Spirit Airlines, c'est une société d'aviation à bas coût basée en Floride et qui ne va pas bien. Elle vient de supprimer 200 emplois et de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Une curiosité à ce propos, le nouveau code vestimentaire de Spirit Airlines. Les clients ne seront plus autorisés à embarquer s'ils arrivent pieds nus ou insuffisamment vêtus. Attention aussi aux tatouages s'ils sont de nature obscène ou offensante. Mise à jour, après un mini-scandale survenu au mois d'octobre qui avait fait le buzz à l'époque sur les réseaux sociaux, deux jeunes femmes expulsées d'un vol Spirit Airlines en raison de leur tenue jugée trop courte. Elles portaient un crop top, un haut qui laissait apparaître leur nombril. Ils avaient été virés de l'appareil, tout simplement, sans compensation financière. Ils se murmurent que cette mise à jour de ce code vestimentaire vise à éviter ce genre d'incident néfaste pour la communication de l'entreprise.
Vincent Souriau, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand. Nous sommes deux jours maintenant après le crash d'un petit avion de tourisme venu de la Martinique et les recherches ont repris aujourd'hui dans les montagnes de l'île voisine de la Dominique.
Les secours vont partir ou repartir à la recherche des quatre occupants de l'appareil dont l'épave a été localisée hier, mais elle était vide. Localisée dans les montagnes de la Dominique, cette petite île indépendante située au nord de la Martinique et au sud de la Guadeloupe. Christine Cupit.
De nouvelles opérations de reconnaissance terrestre seront menées aujourd'hui, selon le dernier communiqué de la préfecture datant d'hier soir. Les sapeurs-pompiers du service d'incendie et de secours de Martinique participeront à ces recherches. La préfecture indique que des moyens spécialisés seront projetés sur le terrain. La zone où les secours ont localisé l'avion est escarpée et difficile d'accès. Le parquet de Fort-de-France a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour homicide involontaire. Quatre personnes se trouvaient à bord, le pilote, âgé de 22 ans, et le copilote, 40 ans, ainsi que deux passagers âgés de 22 et 24 ans. Aucun d'entre eux n'a été retrouvé pour le moment. Ils faisaient partie d'un groupe de jeunes qui voyageaient à bord de plusieurs avions privés. Tous ont décollé dimanche de la Dominique. Tous ont atterri à l'aéroclub du Lamantin en Martinique, sauf un. Une aide psychologique sera proposée aux familles des victimes.
Un tout autre sujet, le dernier rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Dernier rapport dans lequel l'Observatoire souligne le rôle de plus en plus stratégique de la Martinique et de la Guadeloupe dans le trafic de stupéfiants. Conséquence collatérale et sans doute non prévue de l'effet dissuasif des contrôles opérés à l'aéroport Félix Éboué à Cayenne. Yasmina Sali est l'auteur de ce rapport. Elle est au micro de Véronique Nison.
Il y a trois conséquences principales. Tout d'abord, l'augmentation de l'utilisation du fret aérien et du fret express et postal de Cayenne jusqu'à Paris. Par exemple, en 2022, ce mode de transport représentait 36% des saisies de cocaïne effectuées par les services douaniers de Roissy Fret en provenance de Guyane. Ça fait aussi une augmentation de l'utilisation du vecteur maritime, tant en Guyane que dans les Antilles françaises. Il y a eu un effet dissuasif de l'utilisation de l'aéroport de Cayenne, qui a créé un effet de contournement vers les aéroports des Antilles, notamment avec des mules qui font les trajets Cayenne-Antilles-Antilles-Paris. Donc il y a eu un contournement vers les Antilles. Les transports entre les Antilles et l'Hexagone semblent moins contrôlés, parce qu'il n'y a pas du 100% contrôle comme c'est le cas à Cayenne.
Comme c'est le cas à Cayenne, donc, en direction des Antilles. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va écouter un peu de musique avant de se quitter. Aéroport de Mustang avec Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton.
C'est Moscou, à l'aéroport. Reste un espoir qu'il se passe quelque chose. Une fille aux beaux yeux noirs, une bombe qui explose. Laisse-toi noyer dans la foule, va lâcher prise à Hong Kong, Delhi ou Séoul, l'île ou Venise. Laisse-toi noyer dans la foule, va lâcher prise à Hong Kong, Delhi ou Séoul, l'île ou Venise. Tu n'as pas vu l'Atacama, cet immense désert fauve, devenir du jour au lendemain un océan de fleurs mauves. Oui, toi tu ne sais rien encore de la majesté, de la gloire ancienne des ruines d'encore qui ressuscite le soir. La grâce t'attend près d'ici, tu ne sais plus, tu ne sais plus. Est-ce à Lens, Rio, Helsinki, Honolulu, Honolulu.
Le magazine de bord vous vend une vie rêvée, une saucisse à Francfort, le soir à Capri des Vongolais. Une fois que tout le monde dort, on peut enfin rêver, mais on ne rêve pas bien fort. Dans la cabine climatisée, le soleil dort, dans ce ciel dégagé, nous sommes dans l'angle mort d'un lieu un peu découragé.
T'attends quelque part, je te le promets.
Il reste un espoir qu'il se passe quelque chose. Une grosse bagarre, une hôtesse un peu chaude. À l'aéroport, il faudra attendre pour fumer et la navette et les rues bouchonnent à l'aéroport. Moi je hais le monde entier, le monde ressemble fort à l'aérogare.
Laisse-toi noyer dans la foule, va, lâche prise à Hong Kong, Delhi ou Séoul, l'île Venise, laisse-toi noyer
à l'aéroport.
Aéroport de Mustang et Arthur Teboul, c'est un titre à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Et c'est avec ceci que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Vincent Biteau et Arthur Bon. Vous restez bien sûr sur notre antenne dans quelques secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.
RFI Midi.